autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Il y a une chouette équipe ici. Ils aiment ce qu'ils font, ça change tout.
Elles sont vraiment fortiches, ces chercheuses.
Bon, faut pas que je divague trop, le public va s'ennuyer.
Bonjour chers amis auditeurs et bienvenue à l'écoute de notre petite voix intérieure. Celle qui parle dans notre tête, vous la connaissez. Vous aussi, vous vous parlez sans doute intérieurement, silencieusement, pour vous donner des conseils, vous motiver, vous sermonner peut-être et divaguer sûrement. À quoi sert cette incessante petite voix, cette parole intérieure si intime et si universelle ? Est-ce que tout le monde se parle ? Et est-ce qu'on se parle tout le temps ? Mais comment ? Que nous disent nos monologues intérieurs ? Est-il possible de les étudier ? Nos invités, deux chercheuses exceptionnelles, ont relevé ce défi insensé, étudier la parole intérieure, le langage intérieur. Hélène Lovenbrück, dont on vient d'entendre la voix, est chercheuse en psychologie et neurocognition. Stéphanie Smadja est linguiste et coordinatrice du projet de recherche Monologuée, auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Hermann, Le langage intérieur, la parole intérieure, les troubles du langage intérieur, mais aussi la parole intérieure en prison. C'est tout un monde, notre, nos mondes intérieurs, qui se sont ouverts à nous le 2 février dernier. Nous vous proposons de réécouter cet entretien à plusieurs voix autour de la question « Pourquoi et comment nous parlons-nous dans notre tête ?» Bienvenue à l'écoute de nos soliloques.
Je m'appelle Dave, je ne sais pas s'il aura pensé à prendre du pain.
Il m'a rappelé avec ma réunion ce soir, j'ai pensé à la rappeler. De prévoir le repas du soir.
Ouais, je ne sais pas ce qu'il me veut encore. Bon, je vais voir, je vais le rappeler.
Je vais mettre un endroit dans ma soirée.
Il
pleut, un pénible.
C'est trois petites gouttes.
La voiture vient de se garer super mal.
Et le pollen.
Et en plus, elle n'est pas belle.
Et les gens...
Je sais pas parce que t'attends toute seule debout, que t'as l'air débile. Ça va aller, les gens ils regardent pas que moi.
Ça va aller, car c'est l'artiste Adriana Wallis qui a enregistré les passantes en leur demandant d'exprimer à voix haute ce qui se passait, ce qui leur passait par la tête. Un mix en stéréo simultané de nos voix intérieures. Sujet inouï qui suscite d'ailleurs de nombreuses questions de votre part, chers amis auditeurs sur les réseaux sociaux. Et ça ne fait que commencer grâce à vous. Bonjour Stéphanie Smadja.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous en studio. Bonjour Hélène Lovenbrück.
Et bonjour à vous deux.
Merci d'être en direct, en ligne, avec nous depuis chez vous pour partager vos recherches. Donc véritablement inouïe. Hélène, vous avez été une des, si ce n'est la première, vraiment à travailler sur notre langage intérieur. Hélène Lovenbrück, vous êtes chargée de recherche au CNRS, au laboratoire de psychologie et neurocognition de l'Université de Grenoble 3. Médaille de bronze du CNRS pour vos travaux précurseurs. Pourquoi et comment vous êtes-vous intéressée, en tant que neuroscientifique, neurolinguiste, à nos monologues intérieurs ?
Alors, juste d'abord, je ne suis pas du tout la première à m'intéresser à cette question, mais je m'y intéresse en effet avec un angle un peu particulier qui est celui de la neurolinguistique, qui cherche à décrire les réseaux cérébraux qui gouvernent la production et la compréhension du langage. Et donc, quand on s'intéresse à mieux comprendre les mécanismes qui mènent à la production du langage, c'est-à-dire comment on va planifier nos énoncés, comment on va planifier le mouvement de nos articulateurs, les mouvements de la langue, des lèvres, du larynx, comment tout ça est contrôlé et organisé et comment on peut éviter les erreurs, comment on évite les lapsus, comment on évite que notre langue fourche, eh ben, on en arrive à s'intéresser aux théories du contrôle du mouvement. Et dans cette théorie, il y a ce qu'on appelle des étapes de planification dans lesquelles on utilise des modèles, des simulateurs internes. Et ces simulateurs, ils produisent une action simulée. Et dans le cas du langage, l'action simulée, c'est un langage interne. Et donc, c'est là que petit à petit, je me suis intéressée à cette forme, à ce précurseur du langage à voix haute qui est le langage intérieur. Pour essayer donc de mieux comprendre de quoi il est constitué, quelle est sa nature, sa fonction.
Quand vous dites précurseur, hein, c'est parce que ce langage, cette voix intérieure, on y reviendra probablement, nous habite dès l'enfance. Stéphanie Smadja, alors vous êtes linguiste, maîtresse de conférences à l'Université de Paris. Vous, c'est à travers la littérature, hein, qui foisonne de monologues intérieurs, que vous vous êtes intéressée au sujet. Vous êtes êtes aujourd'hui coordinatrice du programme Monologué qui rassemble plus de 65, dont des artistes, hein, on l'a entendu. Vous venez de publier, Stéphanie, aux éditions Hermann, Parole intérieure en prison, Parole intérieure de migrante, et puis à sortir donc Le langage intérieur, ouvrage plus grand public. Ce qui est le plus fascinant dans ce travail, dans vos recherches, Stéphanie, c'est qu'il concerne un domaine que l'on connaît tous, que l'on partage tous, qui touche à la fois le plus intime et le plus singulier d'entre nous, peut-être aussi ce qui constitue notre humanité, hein, on y viendra peut-être. La parole intérieure, c'est ça, c'est à la fois singulier, totalement universel, et dès qu'on tire ce fil-là, ça intéresse tout le monde, ça nous parle à tout le monde, et pourtant c'est un sujet très peu abordé dans la recherche.
En fait, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que c'est un sujet qui a été beaucoup abordé dans la recherche anglo-saxonne depuis ces 40 dernières années. C'est un sujet qui a été beaucoup exploré à la fin du 19e siècle, aussi en France, en Europe. Et c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène depuis les années 1980, à peu près, avec le retour de la subjectivité du sujet. Donc, on s'intéresse aussi au langage intérieur. Et c'est vrai que de ce point de vue, c'est à la fois un sujet qui parle à tout le monde. Et c'est une question qu'au quotidien, je dirais, on ne se pose pas nécessairement. On n'a pas toujours conscience d'avoir une parole intérieure. Et on s'en est rendu compte en étudiant, donc avec Catherine Paulin, le corpus en prison et la parole intérieure des migrantes pour les deux premiers livres que vous citiez.
Ouais. Et oui, on se parle tout le temps dans sa tête. Mais justement, est-ce que tout le monde se parle dans sa tête ? Qui peut répondre à ça, Hélène ou Stéphanie ?
En fait, là-dessus, avec Stéphanie, en effet, Stéphanie mène des entretiens très détaillés et elle expliquera sa méthode. Mais il existe un certain nombre de travaux dans le monde qui ont été faits de la sorte, qui visent à mieux décrire de façon introspective quand on parle dans sa tête, avec quelle fréquence et si on parle dans sa tête. Et il se trouve qu'il y a une grande variabilité interindividuelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui parlent dans leur tête tout le temps, à tout moment de la journée. Et puis, chez d'autres, c'est un petit peu plus fluctuant. Et puis, d'autres ne parlent pas du tout dans leur tête et ont une vie intérieure qui est plutôt constituée d'images visuelles, de sensations, d'émotions, mais de très peu de mots, finalement.
Oui, oui, parce que quand on parle de voix intérieure, c'est un langage intérieur, hein, Stéphanie, vous qui êtes linguiste. C'est quoi la différence ? C'est quoi un langage intérieur ? Hélène nous a dit précurseur du langage qu'on va produire, mais on ne dit pas tout ce qu'on a d'abord pensé dans notre tête. Enfin, qu'est-ce que ce serait la définition, tiens, du langage intérieur ?
Alors, il faudrait déjà distinguer langage intérieur et parole intérieure. La parole, c'est vraiment fondé sur les mots, c'est la composante verbale du langage intérieur. Le langage qui dit langage dit système de signes. En fait, le langage intérieur peut aussi, comme vient de le dire Hélène, peut aussi se composer d'images, tout simplement. Donc le langage ne passe pas toujours par des mots, tandis que la parole, à proprement parler, passe par des mots. Et il est vrai que certains disent, lors des entretiens monologués, ne se parler constamment et n'en avoir pas toujours conscience, mais avoir cette sensation que la parole est toujours là. Mm-hmm. Et il y en a qui disent que ça varie en fonction de leurs émotions. D'autres disent qu'ils ne se parlent jamais dans leur tête, mais qu'ils parlent toujours à voix haute. Il y a vraiment tous les cas de figure. Et puis, certains, en effet, n'ont que des images, voire que ce qu'on appelle des pensées abstraites.
Mais quand on se parle à l'intérieur, alors moi, je dois être assez bavarde à l'intérieur, parce que je suis certaine que je me parle souvent à l'intérieur de ma tête. C'est à moi que je me parle, c'est pas aux autres, hein. c'est à soi-même qu'on se parle.
Alors merci pour la question, parce que ça c'est une question fondamentale. En fait, le langage intérieur, ce n'est pas du tout une sphère isolée du monde. On n'est pas nécessairement en train de se parler uniquement à soi. Je veux dire par là qu'en réalité déjà, on ne se parle pas si on ne nous a pas parlé au préalable. Donc l'enfant est d'abord immergé dans le langage extériorisé, social, et ensuite il l'intériorise progressivement. D'une part, et d'autre part, quand on étudie le langage intérieur, on se rend compte à quel point le langage intérieur est, en linguistique, on dit polyphonique. C'est-à-dire qu'on est toujours, notre voix est toujours traversée par les voix d'autrui. Donc oui, certes, on se parle, mais parfois, par exemple, on peut imaginer qu'on parle à d'autres ou rejouer des conversations qu'on a vécues.
Tout est possible autour de la question comment nous parlons-nous dans notre tête et comment étudier ce langage intérieur. Nouvelle question soulevée par notre confrère de Radio-Canada TV, le journaliste André Bernard, dans un excellent documentaire auquel vous avez participé, hein, toutes les deux, documentaire consacré à la parole intérieure, extrait en forme de question.
Chose curieuse aussi avec le discours intérieur, c'est que parfois je me parle en utilisant le « je ». Hein, je l'ai eu. J'y suis arrivé. Ou le tu. Tu l'as pas, t'es poche.
Le « je », à la limite, je peux comprendre, puisque « je me parle ». Mais pourquoi le « tu » ?
Pourquoi le « tu » ? Énorme question, oui. Quand je me parle, je me dis peut-être « je ». Est-ce que je dis « tout » ? Je ne sais même pas. Et vous, vous savez ?
Ah, oui.
Stéphanie.
En fait, on se rend compte à travers les entretiens monologués, donc actuellement, on a interrogé un peu plus de 200 participants, que les variations pronominales sont assez fortes. C'est-à-dire que la plupart des gens se disent soit « je », soit « tu », soit alternent entre « je » et « tu ». Ça, c'est le cas de figure le plus fréquent. Mais il est aussi tout un ensemble de cas où on se parle en se disant « tu » uniquement, jamais en alternant. Ou encore, on se parle à la troisième personne, c'est-à-dire qu'on parle de soi, on se parle de soi à la troisième personne. Et les personnes qui ont témoigné donc, dans le cadre des protocoles monologués de cet usage ne relevaient absolument pas d'un usage pathologique. Donc on voit bien qu'il y a quasiment tous les pronoms, sauf alors celui qui n'a jamais été rencontré, juste en littérature, c'est le « vous ».
Ah, le « vous », c'est que en littérature, sinon on ne va pas se dire « vous » dans notre tête. Hein.
A priori,
non. Et est-ce que ça change ? On a beaucoup de questions d'auditeurs hein, là-dessus. Selon la langue que l'on parle, selon la culture, j'ai envie de citer Vivouya qui nous écrit de Goma, en RDC. A-t-on une langue pour parler avec soi-même ? Ou Boubacar de Bamako, Mali, qui nous dit « pourrions-nous parler une langue et puis penser dans une autre ?» Hélène Lovenbruck, est-ce que vous avez des explications là-dessus, est-ce qu'il y a des différences ? Alors, on a dit inter-individuel, on l'a bien vu, hein, mais interculturel.
Alors, il y a des différences individuelles très fortes. Et puis, il y a en effet, les personnes qui parlent plusieurs langues vont, dans leur tête, utiliser une langue ou une autre en fonction du contexte. Donc, si la personne est en train d'anticiper une conversation future avec quelqu'un de sa famille avec qui elle parle dans une certaine langue, cette petite voix intérieure va se faire dans la langue en question. Et puis, pour plutôt faire une liste de courses dans laquelle là le contexte amènera une autre langue, à ce moment-là la langue intérieure aura elle-même une autre langue. Donc vraiment c'est en fonction de ce qui est évoqué mentalement que la langue peut fluctuer entre une langue et l'autre. Et puis sur est-ce qu'on a une langue différente, une langue particulière, singulière quand on se parle à soi-même, là en effet ce qui semble être le cas qui a été beauco discuté notamment par Vygotsky, c'est que notre parole intérieure, puisqu'on se parle à soi-même, on peut faire beaucoup d'omissions, on peut utiliser des raccourcis, on n'est pas obligé de tout redéfinir puisqu'on n'a pas besoin que notre auditeur comprenne bien puisque l'auditeur c'est nous-mêmes. Et du coup cette langue intérieure quand elle a une caractéristique d'abréviation, de condensation, de raccourci qui est en effet singulière.
Il n'y a pas de grammaire en fait dans notre langue intérieure, il n'y a pas tant que ça besoin de grammaire ou de tout expliquer. Ah Stéphanie.
Alors, en fait, c'est pas tout à fait ce qu'Hélène suggérait. Elle évoquait l'hypothèse qui part beaucoup des travaux de Vygotsky, de ce langage abrégé qui serait donc un langage effectivement spécifique pour soi-même, de soi à soi. Mais en réalité, on se rend compte que ce n'est pas du tout le patron syntaxique majoritaire en langage intérieur et que c'est beaucoup plus partagé que ça, d'une part, et d'autre part, qu'on peut justement évoquer l'hypothèse d'une véritable grammaire endophasique. Alors, à l'intérieur
d'une communauté... ça veut dire grammaire intérieure. Hein,
grammaire de langage intérieur, de langage tout intérieur. À fait. Ça vient d'endophasie, c'est un terme qui a été créé par Georges Saint-Paul, un médecin anthropologue de la fin du 19e siècle, pour signifier le langage intérieur. Et on se rend compte qu'au sein d'une communauté sociolinguistique donnée, on peut quand même repérer des traits communs et réfléchir en termes de grammaire endophasique au point de vue des pronoms, des verbes qu'on utilise, des temps qu'on utilise. Par exemple, la représentation du temps, qui est une question très culturelle, bien sûr, comme les pronoms du reste, du point de vue de la pragmatique endophasique. Comment est-ce qu'on fait pour... Parce que les mots nous servent à agir sur autrui. Mais les mots nous servent aussi à agir sur nous. Donc il existe une pragmatique endophasique. Et on n'en a pas conscience.
Et oui, on n'a pas conscience de ce que nos paroles internes génèrent en nous. Et puis ça ouvre un champ enfin, complètement délirant, j'ai envie de dire. Parce que là, on ne peut pas apprendre la langue de l'autre. Hein, on ne peut pas apprendre la langue intérieure de l'autre. Nos auditeurs au Congo, Kinshasa, Christian, nous demandent est-ce que quand on a des soucis, des problèmes, on se parle plus à soi-même ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression aussi que... On peut ruminer, hein, ou quand on a des soucis, enfin ça, c'est le petit vélo dans la tête.
Alors ça rejoint une question sur laquelle on a travaillé ensemble, Hélène et moi, la question des ruminations, donc elle aura aussi certainement des réponses. Je pense que surtout, on en a plus conscience Quand on rumine. Quand la parole de l'intérieur nous réveille dans la nuit, par exemple, c'est aussi une question qu'on pose dans les entretiens monologués. Souvent, ce qui réveille les participants, en tout cas, qui ont répondu à cette question, c'est la parole intérieure qui se met en marche. C'est parce qu'on rumine, c'est parce que... Donc, je ne suis pas sûre qu'on utilise plus la parole intérieure quand on a des problèmes, mais on en a plus conscience.
Hélène, vous voulez ajouter quelque chose à cette question ?
On en a plus conscience et surtout elle tourne toujours autour d'un même sujet, donc elle transforme cette parole intérieure en comme une forme d'écho en parole intérieure qui devient vraiment obsédante et présente. Et il semble que cette forme de parole intérieure qui soit si excessive, donc qui est une forme d'emballement, on puisse l'apaiser par des méthodes de relaxation qui visent à empêcher cette simulation interne de voix. Donc on peut imaginer qu'on puisse avoir des méthodes pour la calmer quand elle devient obsédante, parce que en fait elle implique toute notre motricité interne, elle implique tout notre système articulatoire de façon contractée, crispée. Quoi.
C'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, quand on se parle à l'intérieur, c'est un peu comme si on parlait à l'extérieur, enfin un peu moins, mais on fait quand même tous les gestes et ça mobilise quand même. C'est ce que vous disiez, hein, toutes nos fonctions articulatoires, tout notre corps. Hein.
Voilà. Alors, il semble qu'il y ait en fait différentes formes. En fait, on va revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que parfois c'est des pensées abstraites, est-ce que parfois c'est du langage, c'est la parole, et puis est-ce que parfois c'est audible et est-ce que ça engage le système corporel. Il semble qu'il y ait comme un continuum, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui parlent dans leur tête de façon complètement abstraite et il n'y a pas de son. Et donc ça c'est en lien avec un trait de caractère ou un trouble qui s'appelle l'aphantasie, le fait de ne pas pouvoir imaginer des images visuelles et le fait de ne pas pouvoir non plus imaginer des images sonores, des sons. Donc certaines personnes vont penser de façon très symbolique, amodale, sans son, et puis d'autres vont avoir une parole intérieure beaucoup plus sonore. Et dans ces cas-là, en effet, on a comme une simulation de la parole à voix haute, et donc on va engager tout notre système de planification, on va engager les mouvements de nos lèvres, et donc en tant que neurolinguiste, on peut faire des mesures à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on peut mettre des capteurs sur les muscles des lèvres, et puis montrer qu'il y a une activité électrique dans les muscles des lèvres pendant que les personnes parlent dans leur tête.
Même quand on ne parle pas à voix haute, autour de toutes ces innombrables questions que soulève notre voix intérieure, on n'a pas fini de s'interroger. Même en chanson avec Anne Sylvestre. C'est votre choix et on le comprend. Vous me trottez dans la tête sur RFI.
Vous me trottez dans la tête même quand je n'y suis pas. Passez-vous par la fenêtre ou l'escalier du bas. J'ai beau changer les serrures, multiplier les verrous, boucher toutes les fissures, comment faites-vous ? Vous me trottez dans la tête sans aucune hésitation. Vous piétinez ma moquette, portez mes chaussons. Il n'est pas jusqu'à mes rêves où je ne vous ai parfois vu. Permettez que je m'élève contre cet abus. Vous me trottez dans la tête, je n'ai plus d'intimité. Vous battez mes omelettes, sucrez mon café. Faut-il que je déménage, que je perde la raison ? Vous me donnez des mirages, des démangeaisons. Vous me trottez dans la tête, j'ai beau fermer les guichets, porter des triples lunettes, prendre des cachets. Je peux boire de l'absinthe, fumer du topinambour, déjouant toutes mes feintes, vous revenez toujours. Vous me trottez dans la tête, mais au fait, que cherchez-vous ? Vous pourriez un jour, c'est bête, tomber dans un trou de ma mémoire, vous n'y seriez pas longtemps. Elle est comme une écumoire, elle a fait son temps, mais rien ne vous décourage, voici que vous insistez. Vous apportez vos bagages, vous faites le thé. Vous me trottez dans la tête, si je n'entends plus vos pas, quelque chose en moi s'arrête, c'est mon cœur qui bat. Vous me trottez dans la tête, si je n'entends plus vos pas, quelque chose en moi s'arrête, non, ne partez pas.
Et oui, on y tient, ces petites voix qui vous trottent dans la tête, la regrettée Anne Sylvestre sur RFI. C'est le choix de nos invités, les neurolinguistes Hélène Lovenbruck et Stéphanie Smadja, autour de la question pourquoi et comment nous parlons dans notre tête. Ces deux chercheuses ont fait de la parole intérieure, du langage intérieur, leur sujet de recherche et d'études, dans notamment Stéphanie, dans ce programme interdisciplinaire monologué, où l'on retrouve l'artiste Adriana Wallis, qui enregistre les pensées vagabondes de passantes pour son projet Soliloque. Et vous, vous avez quoi dans la tête depuis ce matin?
Et là, ce que j'ai en tête, c'est la chanson de Michel Sardou de la famille Bélier, parce que je suis en train de penser à ma fille et que j'ai juste envie de chanter « Je ne m'en vais pas, je vole, je vous aime, mais je vole », que j'ai dans la tête depuis que cette gamine me l'a foutu, ça fait 15 jours. Et voilà. Et c'est donc j'ai passé de « Je vais engueuler ma fille » à Michel Sardou. Et ça fait un peu peur. Je ne m'en vais pas, je vole, je vous aime, mais je vole. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir.
Je sais pas, je vais réfléchir, je vais faire un tour en ville et puis en revenant... J'espère que j'aurai les idées un peu plus claires. Et puis, il faut que je pense à envoyer un message à mes tables pour lui dire que ce midi, on mange plutôt à la caserne de bonne qu'à la maison parce que j'aurai pas le temps de lui préparer un truc à manger. Je pense qu'il faudrait que je commence à préparer ma valise. Comme ça, demain matin, je serai pas trop stressée avant de prendre le train. Et puis, il faut vraiment que je m'organise pour être plus efficace la semaine prochaine.
Et voilà, donc j'étais en train de réfléchir comment aborder le sujet avec lui et comment faire pour être zen, comme elle dit, être calme à l'intérieur de soi. J'étais en train de me dire, oui, sur un point précis, effectivement, je réponds pas, mais je sens quand même du stress à l'intérieur de moi et il faut que je travaille là-dessus.
Les soliloques d'Adriana Wallis, florilège de ce qui nous traverse l'esprit, dans nos langages, dans nos paroles intérieures. Est-ce que c'est toujours, Stéphanie Smadja, ce qui nous occupe, ou voilà, une chanson qui revient dans la tête, peut-être liée à quelque chose auquel on pense? C'est des associations d'idées, ça sert à quoi? Ce langage intérieur, immense question. Pourquoi est-ce qu'on se parle tous, ou presque tous, dans nos têtes?
Alors, il existe beaucoup de fonctions négatives de la parole intérieure. On a parlé tout à l'heure des ruminations. Il existe aussi énormément de fonctions positives de la parole intérieure. Et là, dans les extraits qu'on vient d'entendre, par exemple, le deuxième extrait, qui d'ailleurs était en jeu uniquement, la personne utilisait une fonction qu'on appelle la fonction de planification. C'est-à-dire qu'elle préparait sa journée en disant juste, ce qui est le cas de figure le plus fréquent d'ailleurs chez nos participants. Ça, exactement. Et la planification relève de ce que depuis Vygotsky, on appelle l'autorégulation. Donc l'autorégulation qui inclut le choix des vêtements, par exemple, le matin, qui inclut évidemment la régulation du comportement, qui inclut la résolution de problèmes. Par exemple, il y a énormément d'éléments. Mais les fonctions de la parole intérieure sont en fait assez vastes. Il y a des fonctions mémorielles en lien avec la mémoire de travail et la mémoire autobiographique, c'est-à-dire la mémoire à court terme, celle qui nous permet d'apprendre une deuxième langue vivante, par exemple, ou la mémoire à long terme, celle qui nous permet d'avoir notamment une conscience de soi, une représentation de soi. La parole intérieure a des fonctions cognitives, la parole intérieure a probablement des fonctions émotionnelles, des fonctions par rapport aux sensations, aux perceptions. Il est possible qu'on ne perçoive pas le monde de la même façon suivant la langue que l'on parle et que l'on se parle. Et les émotions aussi. Il y a eu beaucoup de travaux aux États-Unis sur le fait que si on n'a pas les mots pour dire les émotions, et donc pas non plus les mots intérieurs, même si on ne les dit pas extérieurement, mais qu'on n'a pas le mot précis pour nommer une émotion, on ne va pas la ressentir.
Hélène Lovenbrück, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Parce que là, ça ouvre un gouffre. Encore un.
Oui, tout à fait. Donc, ce rôle de la parole intérieure dans ce qu'on peut appeler la conscience autonoétique, donc le fait d'être conscient de soi, dans le temps, être capable de voyager dans le temps, se donner une identité constante, est très important.
Et oui, c'est savoir qui on, finalement, on est toujours soi, puisque c'est toujours à soi qu'on se parle, enfin, quelque chose de cet ordre-là. La construction de soi.
La construction de soi, exactement, oui.
Est-ce que tout le monde a la capacité de se parler? Il y a aussi des cas pathologiques, vous en avez parlé, de se parler à soi-même, à l'intérieur. On continue de s'interroger sur cette parole intérieure avec une nouvelle question, soulevée par mon confrère de Science et Vie, Thomas Cavaillé-Foll.
Je me pose la question des sourds de naissance. Donc, ils ne peuvent pas avoir de voix intérieure, mais ont-ils une sorte de vision, de signes peut-être, qui apparaissent un peu dans leur esprit, à la même manière que nous, lorsqu'on se raconte des histoires?
Quel peut être le langage intérieur de quelqu'un qui ne s'entend pas ou alors de quelqu'un qui ne parlerait pas, parce qu'au fond, qui ne s'entend pas, je ne sais pas si la question de Thomas Cavalier-Foll est bien posée. Hélène, vous pouvez y répondre ou c'est, comment
c'est une très bonne question et on a mis du temps vraiment à y répondre de façon claire parce que les chercheurs qui s'y sont intéressés étaient des personnes entendantes qui du coup avaient le biais des personnes entendantes lorsqu'elles interrogeaient les personnes sourdes. Mais donc une personne sourde qui n'a pas du tout de sensations sonores ne va pas avoir un langage intérieur basé sur des sons mais avoir un langage intérieur basé sur des images tout à fait. Donc la personne sourde qui utilise la langue des signes par exemple, quand elle parle, elle s'exprime, elle communique en langue des signes, et donc sa parole intérieure est composée de signes. Et il y a des tests très simples pour le mettre en évidence. En fait, si je vous fais retenir à vous qui êtes entendante une liste de mots, si je vous dis, je sais pas, éléphant, montagne, chocolat, noix, et puis tout, je vous demande dans quelques moments de me redonner cette liste. Vous allez peut-être faire quelques erreurs. Et comme il y avait le mot noix, ben vous allez me dire qu'il y avait bois, par exemple. Mm-hmm. Tout simplement parce que noix et bois, ça sonne pareil. Et quand on fait la même chose avec des participants sourds, en fait, les erreurs, elles vont porter non pas sur le son des mots, mais sur leur forme lorsqu'ils sont signés. Donc, s'il y avait le mot arbre qui se signe avec le bras tenu vertical et la main ouverte comme les feuilles d'un arbre, eh ben, les participants vont peut-être le confondre avec le mot midi qui se signe d'une façon un peu similaire. Donc, le fait qu'ils confondent arbre et midi, qui n'ont rien à voir sur le plan des sons, nous montre qu'ils ont codé, ils ont retenu les mots d'une façon visuelle.
Donc chacun se représente finalement le monde, son monde, et ce, vous l'avez dit, depuis finalement qu'on a le langage, au fond, depuis la petite enfance, Stéphanie Smadja.
Alors c'est une hypothèse linguistique possible, ouais, que c'est des hypothèses, notre représentation du monde change en fonction de notre langue et donc aussi en fonction de nos usages langagiers. Mais effectivement, c'est une hypothèse qui semble assez probante, en tout cas dans nos entretiens monologués.
Et puis alors, vous avez aussi, parce que ça soulève cette question du langage intérieur, de la voix intérieure, de la parole intérieure, hein, c'est pas tout à fait la même chose, ça soulève énormément de questions. Il y a aussi ceux qui entendent des voix. Alors c'est pas toujours leur voix intérieure, mais il y a carrément un réseau, hein, des entendeurs de voix, et c'est pas une pathologie. Je parle pas de Jeanne d'Arc qui entendait des voix. On peut entendre des voix dans sa tête.
Alors Jeanne d'Arc, ce n'était pas nécessairement une pathologie.
Ah, d'accord. Merci de nous dire.
Non, mais c'est-à-dire que, en fait, le phénomène des entendeurs de voix, c'est vrai que c'est un sujet là aussi passionnant, un gouffre, vous direz, diriez. C'est-à-dire que on a longtemps associé le phénomène des voix que l'on entend, comme si je sortais et que vous me disiez j'ai entendu quelqu'un me parler alors qu'il n'y a personne avec vous. Mm-hmm. En fait, on se rend compte que c'est un phénomène beaucoup plus courant qu'on ne le croit et qu'il n'est pas seulement rattaché à la schizophrénie, auquel évidemment il est associé en premier lieu. Et la plupart des gens qui entendent des voix hésitent à en parler parce qu'elles ont peur, ils ont peur de passer pour fou. Or, parmi les entendeurs de voix, il y a, alors certes, il y a quand même aussi les cas pathologiques.
Oui, schizophrène en particulier.
Tout un ensemble de cas qui ne relèvent pas de pathologie et des cas qui sont extrêmement variés. Qui vont des mystiques, par exemple, aux chamans. Là aussi, c'est une expérience assez particulière de discuter avec les esprits en langage intérieur. Et pour eux, ce sont des esprits réels, ce ne sont pas des choses fictives.
Mais comment est-ce qu'on fait, Hélène Lovenbruck, quand on est chercheuse en neurosciences cognitives, pour justement travailler sur ces sujets-là qui sont fondamentaux, qui sont essentiels, qui sont peut-être ce qui fait quelque part notre humanité, hein. Je ne sais pas si d'autres animaux se parlent dans leur tête, on n'en sait rien. Mais comment est-ce qu'on fait pour étudier ces sujets-là ?
Alors oui, il y a beaucoup de possibilités, hein. Donc il y a tout ce qui a trait aux entretiens et aux questionnaires, bien sûr, donc la méthode utilisée par Stéphanie Smadja. Et puis on peut aussi faire des mesures quantitatives, des mesures objectives, c'est-à-dire dont parlait tout à l'heure, hein, c'est le fait de pouvoir mettre des capteurs sur les muscles des lèvres pour voir s'il y a une activité des muscles des lèvres pendant qu'on parle dans sa tête. Donc il se trouve que lorsque les personnes entendent des voix, nous on a fait une étude à Grenoble sur des patients schizophrènes qui entendaient des voix, on a pu recueillir pendant l'entente de voix une activité des muscles des lèvres qui sous-entend qu'en fait ces voix elles sont autoproduites, elles sont auto-générées par les patients qui ensuite les attribuent comme venant d'une source extérieure. On peut aussi faire de l'imagerie cérébrale, on peut regarder ce qui se passe dans la tête des personnes lorsqu'elles parlent dans leur tête. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle dans sa tête, et qu'on prononce vraiment des mots, on va avoir des activités des aires auditives. Les aires du cerveau qui servent à écouter des sons, elles sont activées lors de la génération.
Oui, il faut bien qu'on écoute, bien qu'on s'écoute quoi, quand
voilà.
on se parle.
Il faut bien qu'on s'écoute. Et on a aussi des réseaux qui nous permettent d'imaginer les voix d'autrui, d'imaginer que quelqu'un d'autre nous parle. Donc on a tout un système cérébral qui nous permet ces conversations imaginaires. Et quand ce système est un petit peu déréglé, ben finalement, ces conversations imaginaires qu'on a imaginées, on perd la notion de les avoir imaginées soi-même et elles sont ressenties comme étant des voix externes, en fait.
Oui, alors c'est des monologues, c'est des monologues intérieurs. On en a évidemment beaucoup de preuves aussi dans la littérature. Hein. Ça, c'est votre sujet aussi, Stéphanie Smadja. Alors, on aurait pu lire un extrait de Belle du Seigneur ou passer un extrait des Ailes du Désir, où ceux qui entendent les voix des autres, ce sont des anges. Ça, c'est pour répondre à la question de nos auditeurs à Kaolack, au Sénégal, qui nous demandaient est-ce que quelqu'un peut savoir ce que nous disons dans notre tête. Les anges, peut-être, les autres, je ne sais pas. En tout cas, on vous propose d'écouter une petite voix intérieure singulière, c'est celle du rappeur JP Manova, autour de la question de cette voix intérieure. JP Manova qui lui aussi a une voix dans sa tête.
Y'a une voix dans ma tête qui me parle et m'avertit. Une voix dans ma tête, dans mon crâne, comme un rayon laser qui pulvérise en miettes les jactons qui traînent. Crame à l'avance les disquettes qui viennent. Elle est fight en 5-7, en 4 fight, elle est zen prête. Sans lunettes, snipe en pleine tête. Tout falche ou traître en silence, opère en toute confidence. Sa guidance garantit ma vôtre incidence. Qu'elle a sur mon mental est vitale. Elle pense des plaies inconnues à l'hôpital. Elle agite mes cordes vocales à mes cervicales. Me maintient corps et âme à la verticale. Une voix dans ma tête qui me guide et me canalise. Tout droit les skates qui me disent et les paralysent. Mêle avoir la vie au-delà de la crise. Des pavés de traîtrise me soulage des boniments qui m'épuisent. Quand la vie que je mène me vide, une voix dans ma tête me guide. Quand personne n'a les mots qui mènent, me soulage ou me résonne. Une voix dans ma tête me les donne. Quand la vie que je mène me vide, une voix dans ma tête me guide. Qu'on me pense dingue ou psycho, aucune autre voix ne la vaut. Voix dans ma tête ou parano. Elle me cueille par hasard et me murmure des mots que j'écris sur une feuille inspirée de sa plume sûre. Elle me préserve du manque de culture. Recoupe mes plaies en tout point de suture. Des fois c'est le silence radio pendant les jours. Sourde, elle me tourne le dos. Mais quand j'égare le cours de mes mots, sans crier gare, elle accourt de nouveau comme une mère. Elle me parle et j'entends qu'il ne vaut mieux pas essayer de toucher son enfant. Elle me chante des mélodies, me hante et m'aide aussi. Patiente, elle m'aide à rester précis. Quand j'ai voulu fuir sa raison, la noyer dans l'alcool, elle m'a ramené à la maison par le col. Elle me parle en latin, me parle en créole. Harmonise mes refrains, leur place des bémols. Quand je peux pas voir les choses en face, elle me dit zoom. Si elle ressent une menace, elle me dit goum. Quand ça tourne au vinaigre, elle me dit mets le feu. Un adversaire trop faible, elle me dit laisse-le.
Quand la vie que je mène. JP Manova sur RFI. Quand la vie qu'il mène est trop compliquée, il a une voix dans la tête qui le guide, qui le canalise autour de la question pourquoi et comment nous parlons-nous dans notre tête. Question inouïe, étudiée par nos deux invités, les neurolinguistes Hélène Lovenbruck et Stéphanie Smadja. Stéphanie Smadja, vous écoutiez attentivement les paroles de ce rappeur. Vous avez un projet, vous travaillez sur la voix intérieure des rappeurs?
En fait, je dirige un master, j'ai un étudiant en master qui travaille sur le rap et la création, le lien entre rap, création et langage intérieur. Donc actuellement, on travaille notamment avec un rappeur et lui-même est rappeur. Donc c'est vrai que j'écoutais très attentivement parce que je ne connaissais pas.
Et parce qu'effectivement, il y a vraiment des liens. Alors vous avez poussé loin l'enquête, hein, puisque vous publiez également chez Herman alors Parole intérieure de migrante et puis La parole intérieure en prison. Je propose d'écouter tout de suite, chers amis auditeurs, un extrait donc, de ce travail collectif avec les détenus qui ont travaillé sur leur voix intérieure derrière les barreaux.
Assez, cette fois j'en ai marre. Ça fait combien de temps que je me suis juré de ne plus me mêler des affaires des autres? Finalement, je n'étais heureux que quand je m'intéressais qu'à moi-même. Mon attitude déplaisait, on me disait. Je suis qu'un sale égoïste. Je me suis senti tellement bête quand je leur ai annoncé qu'ils ne faisaient plus partie de mes priorités. C'est peut-être pour ces raisons que j'en suis venu à les détester. Oh, il me vient une idée. Je vais m'occuper sérieusement d'eux. Je vais les briser. Ils ne tarderont pas à manger dans ma main ces crapules. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe, ces salauds. J'aurais tant aimé que les choses se règlent simplement, gentiment, mais avec eux, impossible. Trop fier. Et moi, je suis trop orgueilleux. Non mais pour qui ils se prennent ces types? Je préférais quand les choses se passaient plus cordialement. C'est depuis que l'autre lui a fait entrer cette idée dans sa tête de crétin. J'aurais dû me méfier, un type qui arrive à vous endormir comme ça est capable de tout. 15h15, merde, mon rendez-vous avec le dentiste. Puis merde, j'y vais pas. Encore une bonne excuse pour pas y aller. Je ne suis qu'une poule mouillée, j'ai toujours les arguments qu'il faut pour me persuader au renoncement. Toute ma vie, j'ai trébuché de toute façon, car je suis qu'un irrésolu. Ni oui, ni non. Voilà ce que je suis. Un irrésolu.
Il n'est pas tendre avec lui-même, ce détenu dont vous avez recueilli la parole dans cet ouvrage, hein, écrit avec Catherine Paulin, qui a mené l'enquête avec vous, Stéphanie Smadja, La parole intérieure en prison. C'est passionnant, hein, quand on la lit, quand on l'entend, sur la forme comme sur le fond. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça dit, ces paroles intérieures en prison, où j'imagine qu'on doit avoir tendance à ruminer, être seul avec soi-même et à se parler beaucoup dans sa tête?
Alors, on avait beaucoup de questions de recherche par rapport à ce corpus et cette enquête, et effectivement, qui était tout à fait passionnante. L'une des questions était de savoir si la parole intérieure redoublait, en quelque sorte, l'enfermement, si on était enfermé en soi-même, par exemple, à ruminer excessivement, ou si la parole intérieure pouvait éventuellement constituer quelque chose comme une échappatoire et une sorte d'univers où on pouvait finalement se ressourcer. Donc c'est vrai que c'était une des questions parmi d'autres qui orientait notre analyse. Donc c'est une enquête que j'ai menée et que j'ai analysée avec Catherine Paulin pour ne pas être justement, notamment ne pas être la seule à analyser ce corpus extrêmement délicat. Et donc là, le texte qu'on a entendu, il faut le remettre en contexte, c'était une demande, enfin un exercice que je leur avais proposé, parce que dans les protocoles monologués, on essaye de recueillir une parole intérieure au plus près, puisque bien sûr c'est impossible d'avoir la parole intérieure telle qu'elle
se déroule, bien sûr.
Voilà, donc ça on y renonce d'emblée, scientifiquement, épistémologiquement c'est impossible. En revanche, on essaye de s'approcher au plus près. Et puis il y a aussi en phase 2 des protocoles, il y a aussi une série d'exercices qui permettent aux participants de travailler leur parole intérieure dans le sens qu'ils souhaitent. Et là, en l'occurrence, donc en prison, j'avais un petit peu mélangé les deux phases pour des raisons de temps. Et ça, c'était un exercice d'écriture émotionnelle. C'est-à-dire que je demandais, donc là, on a juste une partie de l'exercice, je demandais aux participants qui le souhaitaient, tout est libre dans les protocoles monologués, d'écrire un événement à la première personne, puis de l'écrire à... Donc une émotion réelle à la première personne, puis de l'écrire à la troisième personne 3 jours de suite.
Et ça change, et ça ne donne pas la même chose. J'aimerais bien qu'on revienne avec vous, Hélène Lovenbruck, sur le lien justement entre cette parole intérieure, ce langage intérieur et les émotions.
Ah, bah, ça dépend des moments, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de fonctions de la parole intérieure, donc elle peut être par moments autorégulatrice, et donc elle va en effet essayer de canaliser nos émotions, comme le disait si bien le rappeur. Elle va nous permettre de nous contrôler, de nous apaiser, parfois de nous consoler. Et puis il y a des moments où la parole intérieure, elle sert non plus à de l'autorégulation, mais plutôt à du raisonnement, par exemple, et de la planification d'événements. Et là, l'émotion va être moins forte. Donc c'est vraiment en fonction du contexte que l'émotion est très présente ou pas, en fait.
On ne peut vraiment s'accrocher à rien en ce qui concerne ce langage, cette parole intérieure. C'est assez génial, c'est vraiment une pelote qu'on tire, mais on ne sait jamais où ça va nous emmener. Autour de cette question de notre petite voix intérieure, bah justement, nouvelle interrogation soulevée par Cécile Lestienne, directrice de la rédaction du magazine Cerveau et Psycho.
J'imagine la difficulté d'étudier ces voix intérieures, mais je suppose que ça se produit pas de la même façon chez tout le monde. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des différences entre les gens qui pratiquent la méditation et les autres? En pratiquant la méditation, on essaye de laisser passer ses pensées et justement peut-être de faire taire sa voix intérieure ou pas.
Faire taire sa voix intérieure ou pas, Hélène Lovenbruck?
Alors, faire taire sa voix intérieure négative, Voilà, donc l'objet de certaines formes de méditation focalisée, ça va être en effet d'essayer d'être attentif au fait que notre esprit se fait distraire par des pensées ruminatives et des pensées désagréables, et puis être capable de se recentrer sur les aspects plus positifs ou en tout cas les aspects qu'on a choisis de notre vie intérieure. Donc on peut en effet montrer que chez les personnes méditantes très expertes, il va y avoir cette capacité à atténuer les formes de paroles excessives, ruminatives, négatives, et qui peut d'ailleurs qu'on peut tout à fait objectiver en faisant de l'imagerie cérébrale et en observant l'activité cérébrale. Et on voit en effet qu'on va avoir des activations plus importantes dans le cortex préfrontal dorsolatéral, donc qui indique qu'il y a une focalisation de l'attention sur un événement important comme sur lequel le méditant est en train de se concentrer, par exemple la respiration, et puis que tout le reste, le vagabondage mental, verbal, lorsqu'il est trop invasif, va être réduit, et donc on va avoir une atténuation des aires sensitives, des aires auditives en particulier.
Donc on n'entretient pas sa voix intérieure négative. Stéphanie, vous voulez réagir aussi, répondre à cette question de Cécile Estienne sur les liens entre voix intérieure, méditation, puis faut-il l'entretenir, cette voix intérieure, ou pas?
Alors déjà, pour revenir à la méditation, nous avons mené dans Monologuer toute une enquête sur le bouddhisme zen. Donc c'était un master à nouveau fait par Laure Charbonnet, et normalement il y aura un livre dans la collection Monologuer sur le sujet. Et on s'est rendu compte au cours de cette enquête, de ce protocole spécifique, qu'en réalité, les participants, qui pour certains méditent depuis 43 ans, 45 ans...
Oui, c'est des sacrés méditants, oui.
Voilà. Justement, nous disaient dès le début que la méditation ne servait pas du tout à faire taire la parole intérieure, mais plutôt à transformer le langage intérieur. Si bien que la question se pose de savoir s'il existe quelque chose comme un langage intérieur spirituel en nous. Par exemple, est-ce que le langage intérieur spirituel prendrait une forme poétique? C'est une question. Un des participants écrivait aussi de la poésie. Il nous en parlait et justement expliquait. Et une autre, quand elle écrit ses paroles intérieures après une méditation, on se rend compte que la phrase est assez brève. Elle n'est pas nécessairement poétique, mais il y a des caractéristiques syntaxiques assez nettes. Et on peut remarquer une différence très nette entre la parole intérieure juste après le moment de la méditation et la parole intérieure ordinaire, je dirais, par ailleurs. Donc non, ne pas nécessairement la faire taire. En fait, il faudrait plutôt, c'est ce qu'on essaye de faire dans Monologuer, oui, diminuer les fonctions négatives et augmenter les fonctions positives.
C'est-à-dire diminuer, par exemple, les paroles où on se dévalorise, où on se dit « tu vaux rien, t'exagères, non mais ça va pas ». Voilà, en gros, ce serait diminuer ça, ou les pensées ruminantes, et puis au contraire, peut-être valoriser des voix intérieures quand elles vous disent ben « là, je suis bien, ça va, tiens, il y a un rayon de soleil ». Enfin, je schématise, mais c'est un peu ça.
Oui, en fait, c'est déjà prendre conscience de toutes ces fonctions au quotidien, parce qu'on n'en a pas conscience.
Bien sûr,
on les utilise.
Ça se déroule à notre insu totalement, enfin.
Plus ou moins totalement. Il y en a qui en ont conscience, mais il y en a qui n'en ont pas conscience du tout. Donc déjà, et ensuite, effectivement, vous avez cité plusieurs exemples. On se rend compte que, enfin, je me suis rendu compte pour l'instant lors des entretiens que la plupart des participants ont une parole intérieure plutôt critique. Et souvent négative, pas toujours, hein. Il y en a au contraire qui ont une parole intérieure très positive, mais souvent négative, avec une représentation de soi pas toujours positive. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à transformer.
Est-ce que, justement, en étudiant ce sujet insensé et génial, la parole intérieure, est-ce que vous écoutez plus votre voix intérieure? Est-ce que vous êtes plus familière? Vous en êtes plus consciente, j'imagine, l'une et l'autre. Stéphanie, vous êtes en face de moi, allez-y. Et puis ensuite, ce sera Hélène.
En fait, je ne sais pas si j'ai plus conscience de ma parole intérieure, parce que je pense que si je me suis intéressée au sujet, c'est parce que j'avais, outre la littérature, qui effectivement, je suis venue à cette question en passant par les monologues intérieurs en littérature française. Mais c'est vrai que je me suis toujours interrogée, notamment sur les monologues à voix haute et sur le fait que quand quelqu'un parle à voix haute dans la rue, on le regarde bizarrement, la personne passe pour folle, alors que, en réalité, le monologue à voix haute a beaucoup de fonctions là aussi positives. Par exemple, monologuer à voix haute peut nous aider à nous concentrer. par exemple. Et donc, c'est vrai que
donc, le faire chez soi quand personne ne nous voit, tout va bien. On peut parler à voix haute tout seul chez soi. Ça ne veut pas dire qu'on est fou. Et même dehors.
Mais oui, tant qu'on ne dérange personne, pourquoi
c'est
pas.
C'est pas faux.
Et donc, c'est vrai que c'est une question que je me pose depuis longtemps, que j'observe depuis longtemps. Et je ne sais pas si j'ai plus conscience de ma parole intérieure aujourd'hui.
Et vous, Hélène Lovenbrug?
Oui, je pense que moi, j'ai un petit peu changé sur la façon dont je considérais ma parole intérieure. J'avais un espèce de biais qui était que je pensais que je parlais tout le temps dans ma tête et que c'était toujours sonore. Et puis, petit à petit, en travaillant un peu l'introspection, je me suis rendu compte qu'il y a en effet des épisodes où le timbre de la voix n'est pas très clair et très audible. Et il y a en effet des moments où la parole intérieure, elle est finalement pas si sonore que ça. Elle est tellement abrégée. Donc il y a tout un continuum auquel j'étais pas vraiment sensible avant, qui m'intéresse. Et donc essayer de trouver à quel moment elle devient audible, à quel moment elle est simplement une forme abstraite. Et puis surtout essayer de trouver ces moments où elle est délibérée, c'est-à-dire on décide de parler dans sa tête. Ça, c'est quand on fait une liste de courses, tiens allez, il faut que j'oublie pas le pain, le lait, etc. Et puis les moments où elle est vagabonde, où tout d'un coup, la parole intérieure fait irruption dans notre vie intérieure alors qu'on était concentré à autre chose. Là, vous êtes en train de m'écouter et puis peut-être que vous avez une pensée vagabonde qui est arrivée. Et donc, ces moments-là de l'irruption de la parole intérieure non délibérée m'intéressent particulièrement. Et c'est vrai que le fait de m'y intéresser d'un point de vue neurolinguistique, d'avoir essayé de trouver s'il y avait des réseaux différents entre la parole intérieure délibérée et celle vagabonde, fait que j'y suis plus sensible dans ma vie quotidienne. En effet.
Et puis que vous nous rendez plus sensibles, moi je me dis que c'est complètement fou parce que effectivement quand on regarde chaque être humain en face de nous, ici dans ce studio, en face, notre ami Hugo, vous chère Stéphanie, Hélène qui est en ligne, et puis tout à l'heure quand je sortirai dans la rue, chacun dans sa tête, à sa voix, son langage intérieur, c'est fascinant. Je pense que vous allez devoir revenir pour nous en parler. Merci infiniment à toutes les deux parce que c'est vraiment un sujet inépuisable. Je renvoie donc alors Hélène Lovenbrug à vos travaux, à différents projets de théâtre, de conférences à la Cité des Sciences. Je renvoie aussi Stéphane Smadja sur tous vos ouvrages aux éditions Hermann. Alors, il y en a pas mal. On peut citer La parole intérieure en prison, on peut citer Parole intérieure de migrante, et puis les plus récents, Les troubles du langage intérieur, La parole intérieure et à venir apparaître, plus grand public, Le langage intérieur, se parler à soi-même. Extraordinaire, ça nous donne envie. J'ai cité La parole intérieure en prison, oui, je l'ai cité. Vous revenez quand vous voulez pour aborder, continuer de nous parler de notre petite voix intérieure. Merci Hélène Lovenbrug.
Merci Caroline de votre invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous.
Ah oui, et puis c'est pas fini, hein, j'en veux encore. Merci Stéphanie Smadja.
Merci beaucoup Caroline.
Autour de la question, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi, si vous le voulez bien, pour la suite de nos rediffusions estivales avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir et vous remercier de votre curiosité, chers amis auditeurs et internautes. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les infos.